destin a officialisé votre relation. Taureau, vos pulsions se déchaînent. En effet, une soif intense de profiter de la vie s'impose et vous incite à lâcher prise. Gémeaux, vous êtes à l'aise avec vous-même, vous êtes lucide sur vos moyens, sur vos limites et vos objectifs. Cancer, vous devez revoir vos désirs à la baisse, vous n'êtes pas du tout réaliste en amour et cela va provoquer des déceptions. Lion, vous avez besoin de vous évader du quotidien pour prendre du recul et ne pas vous emballer trop vite dans les changements. Vierge, vous trouvez des oreilles attentives pour vous écouter et des yeux grands ouverts pour vous observer. Balance, tout est en place pour une promotion au boulot ou une rencontre déterminante si vous êtes seul. Scorpion, vous êtes en forme, cela apaise vos dernières craintes et vous permettra de trouver les mots justes pour clarifier une situation. Sagittaire, les semaines qui viennent seront pour vous teintées d'échanges soutenus avec votre partenaire. Capricorne, vous traversez l'existence comme une comète, peu soucieux des autres et prêt à vous bagarrer si besoin. Verseau, un changement planétaire très positif vient vous rehausser d'une confiance nouvelle et vous apporte un courant de chance. Poisson, climat excellent pour réussir des affaires inespérées et convaincre vos associés. Jetez-vous à l'eau.
Bon, ben on va faire ça. Merci beaucoup, Bénédicte. Allez, bienvenue sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Il est 8h01. Sud
Radio. Parlons. Ouais.
Tout de suite, un nouveau journal. Florian Pierra, bonjour.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. À la une, Nicolas Sarkozy qui perd sa Légion d'honneur. La décision est parue ce matin par décret au journal officiel. La consommation d'alcool et de stupéfiants en forte hausse au travail. On verra quelles sont les catégories de salariés les plus touchées par le phénomène. Et puis en foot, le coup d'envoi ce week-end de la Coupe du Monde des clubs dans une nouvelle formule. La décision était attendue. Nicolas Sarkozy est déchu de la Légion d'honneur, mais aussi de l'Ordre national du mérite. L'arrêté est paru ce matin au journal officiel. L'ancien président de la République perd ses deux distinctions après avoir été condamné définitivement par la justice. Yana Durand.
Oui, c'était en décembre dernier dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy avait écopé de 3 ans de prison, dont un enferme pour tentative de corruption sur un magistrat de la Cour de cassation. L'ex-chef de l'État voulait obtenir des informations confidentielles pour influer l'affaire Bettencourt. Cette condamnation entraîne donc une exclusion de la Légion d'honneur. En effet, le retrait est automatique quand un récipiendaire se voit condamné définitivement à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un enferme. C'est un retrait de droit, avait prévenu récemment le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur.
Mais ce retrait ne serait pas une bonne décision, avait déclaré Emmanuel Macron en avril dernier. Nicolas Sarkozy devient ainsi le deuxième chef de l'État français à perdre la Légion d'honneur après le maréchal Pétain en 1945. Dans l'actualité également, troisième nuit d'escalade entre Israël et l'Iran. Au moins 8 personnes ont été tuées, 130 blessées sur le territoire israélien par des tirs de missiles de riposte de l'Iran. Cette nuit, Israël a en effet mené de nouvelles frappes visant le programme nucléaire de l'Iran et son ministère de la Défense. Deux dépôts pétroliers ont aussi été touchés à Téhéran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit vouloir frapper tous les sites du régime iranien. Aux États-Unis, près de 7000 soldats et 150 véhicules militaires rassemblés à Washington hier soir. Une grande parade militaire organisée par Donald Trump pour célébrer officiellement les 250 ans de l'armée de terre. Notre pays sera bientôt plus grand et plus fort que jamais, a déclaré le président américain lors d'un discours. Une parade militaire alors que les manifestations se poursuivent dans plusieurs grandes villes pour contester les arrestations brutales menées par la police de l'immigration. Une personne a été blessée grièvement à Salt Lake City. Dans l'Utah. Retour en France avec la consommation d'alcool et de stupéfiants au travail qui a plus que doublé en 8 ans, constat d'une étude de la marque d'éthylotest Aethylo. 5% des travailleurs dépistés par l'entreprise ont été testés à positif. Selon le président d'Aethylo, Jean-Jacques Cadeau, le phénomène touche notamment la consommation de cocaïne et les travailleurs précaires.
On s'est rendu compte qu'il y avait au sens large une augmentation des tests positifs que l'on réalisait, que ce soit à l'alcool ou aux stupéfiants. Sur la cocaïne, on a noté, nous, une augmentation par 13 du pourcentage de tests positifs réalisés entre 2007 et depuis ce début d'année. On observe que, par exemple, les intérimaires, donc il y a aujourd'hui une surreprésentation de cette catégorie de collaborateurs parmi les tests positifs. Au niveau des horaires de travail, on observe que lorsqu'on réalise des tests en fin d'après-midi et en début de soirée, le taux de positif est beaucoup plus important que durant la journée.
après avoir recueilli par Mona Bru. L'étude observe également une augmentation de la consommation après l'épidémie de Covid. Ce drame hier sur les bords de la Loire a eu lieu près de Saint-Étienne. Deux adolescents de 14 et 15 ans sont morts noyés dans une zone pourtant interdite à la baignade. L'une des deux victimes a péri en tentant de venir au secours de la première. La mairie de Saint-Étienne invite les baigneurs à la prudence et à la vigilance. Un nouveau concurrent pour la SNCF, déjà présente depuis fin 2021 sur la ligne Paris-Lyon, Trenitalia se lance dès ce matin sur l'axe Paris-Marseille. La compagnie ferroviaire italienne va ainsi desservir la cité phocéenne via 4 allers-retours quotidiens. Les prix d'appel des billets sont inférieurs à ceux de la SNCF. La page des sports en foot, coup d'envoi ce week-end de la nouvelle Coupe du Monde des clubs. En l'absence de Coupe du Monde et d'Euro cette année, la FIFA lance la nouvelle version de la compétition. 32 équipes se disputent le titre pendant un mois aux États-Unis. Seul représentant français, le PSG, champion d'Europe, qui affronte ce soir l'Atlético Madrid. Louis Crépeau, la compétition regroupe le gratin mondial avec l'espoir de devenir un rendez-vous majeur.
Oui, la FIFA veut créer une nouvelle vitrine mondiale des clubs à l'image du mondial des nations, mais aussi concurrencer la Ligue des champions. Le problème, eh bien, c'est que cette Coupe du Monde est accusée par beaucoup d'être née avant tout pour des raisons financières et marketing, mais surtout qu'elle va imposer un mois de compétition supplémentaire tous les 4 ans dans des calendriers déjà surchargés. Mais pour la première fois cette année, les meilleurs clubs et joueurs mondiaux sont réunis pendant un mois. Le premier tour se joue avec 8 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleurs de chaque poule rejoindront les 8e de finale. Reste maintenant à la compétition à convaincre le monde de son intérêt.
PSG Atlético Madrid, ça suivra à 21h. Et puis le retour de la Formule 1 après 2 semaines de pause. Grand Prix du Canada ce soir à 20h. Le Britannique George Russell sur Mercedes s'élancera en pole position. Bon dimanche sur Sud Radio, vous êtes avec Jean-Marie Bordry.
Merci beaucoup Florian.
La météo Sud Radio.
Bon, il fait toujours chaud hein, Rémi André.
Alors effectivement, ce matin, on a encore des températures voisines de 20 degrés, notamment sur le nord-est, mais nous avons encore ces orages, c'est-à-dire des orages qui s'étendent depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est. Sur le sud-ouest, vous les avez principalement du côté entre Agen, on va dire, et Bergerac, dans ce secteur, mais également sur le Lot, sur le sud, plus au sud, là, entre Luchon et Saint-Giron. Nous avons également quelques orages sur le sud du Tarn, le sud de l'Aveyron. Nous en avons donc encore quelques-uns ce matin, des orages qui dans l'après-midi vont plutôt se concentrer entre l'Auvergne et le Grand Est, donc encore prudence sous ces orages qui peuvent être localement forts dans l'après-midi. Mais les températures quant à elles vont peu à peu baisser, c'est-à-dire que sur un gros quart nord-ouest du pays, nous avons déjà un temps plus calme avec le retour des éclaircies dans l'après-midi et les températures vont plafonner aux alentours de 24 à 25 degrés sur la plupart de nos régions, sauf au bord de la Méditerranée où après les pluies du matin, nous allons retrouver de belles éclaircies. Et là, les températures pourraient atteindre les 30 à 31 degrés du côté de Perpignan, de Marseille, ainsi que d'Ajaccio.
Merci beaucoup Rémi André. Les pronostics hippiques de Sud Radio, direction Chantilly. Jean-Paul Delperrier vous conseille de jouer le 9, l'As, le 14, le 12, le 2, le 8, le 4 et le 10. Des pronostics hippiques à retrouver comme tous les jours sur sudradio.fr.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, on est ravis de vous accompagner. Alors bon réveil et bon dimanche à vous. À suivre sur Sud Radio notre débat. Est-ce que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a raison de fustiger mai 68? S'il y a des barbares en France, ce sont ses mots ce matin dans le JDD, c'est à cause de mai 68. On va en débattre dans une bonne vingtaine de minutes avec nos invités. Mais avant ça, on vous présente le doute algorithmique. Qu'est-ce que c'est? Muriel Rius vous explique tout dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Nouveau Ford Puma Gen-E, le félin passe à l'électrique. À partir de 189€ par mois. Réservez votre essai sur Ford.fr. Porte ouverte ce week-end. Ford. Puma Gen-E Standard Range LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990€ après déduction du bonus écologique. Offre à particulier jusqu'au 30 juin si accord Bremanilise. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites, l'Aleph est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère. Blonde, rubis, brune, ambrée, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit LEF acheté. Et c'est valable sur tout LEF. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Sud Radio Bergerac.
95.5.
Sud Radio.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute. Comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 € par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang. Tout savoir sur
Total Énergie mise sur la production et la distribution de SAF ou carburant d'aviation durable pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159 € par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2025. Si accord Kofikabaï. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
AGP, association d'assurés engagés et responsables, présente
Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Carole Bien-Aimé-Best, productrice, cinéaste, ancienne membre de l'ARCOM et à l'occasion de la parution de son livre « Crépuscule numérique », un texte qui interroge notre rapport à la vérité à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais avant cela, comme chaque semaine, notre édito, et ce matin, je vous propose de nous engager contre le doute algorithmique. S'engager contre ce doute, c'est affirmer que le plus grand danger ne vient pas de l'erreur, il vient de la confusion. Les intelligences artificielles n'ont pas tué la vérité, elles ont fait en sorte que tout puisse sembler vrai et que plus rien ne puisse l'être avec certitude. Une image peut convaincre, mais elle peut aussi manipuler. Une vidéo peut mentir, une voix peut être générée, une preuve falsifiée. Quand tout peut être fabriqué, quand plus rien ne semble sûr, ce n'est plus simplement le réel qui vacille, c'est la confiance. Aujourd'hui, le doute est devenu un outil, un produit, une stratégie. Il ne s'agit même plus de convaincre, il suffit de semer le doute. Et dans ce climat, ce n'est plus ce qui est prouvé qui compte, mais ce qui circule, ce qui est vu, partagé, relayé, devient pour beaucoup une réalité. Alors ce doute algorithmique, c'est celui qui renforce ce que je crois déjà, celui qui m'enferme dans mes convictions, qui m'éloigne du débat, qui me pousse à cliquer sur ce qui me conforte, sur ce qui me ressemble, qui fait taire la complexité, le temps long. Et le danger devient la perte de repères partagés. Quand chacun vit dans son flux, dans son récit, dans sa version du monde, il n'y a plus de contradictions possibles, juste des bulles d'opinion et une démocratie qui s'essouffle. Car la démocratie, on le sait bien, a besoin de lenteur, de débat, de preuves. Elle a besoin de cette part de réalité commune sur laquelle fonder des choix collectifs. Alors que faire quand ce réel n'est plus une évidence et que la vérité devient variable d'ajustement? Eh bien, il nous faut une exigence, une éthique, une volonté et surtout refuser l'idée que tout se vaut si l'on veut encore pouvoir décider ensemble de ce qui compte. Carole Bien-Aimé, je suis ravie de vous recevoir ce matin. Vous êtes autrice, productrice, cinéaste. Vous avez été de 2017 à 2023 membre de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Vous publiez aujourd'hui « Crépuscule numérique » aux éditions de l'Observatoire, un livre d'alerte sur les effets délétères de certaines technologies. Bonjour Carole.
Bonjour Muriel, merci de me recevoir.
Vous écrivez « Imaginez un monde où il y aurait... » tout simplement plus de vérité. Alors ma première question est simple, est-ce qu'on est déjà dans ce monde-là? Est-ce qu'on a déjà basculé dans une ère de soupçons généralisés?
Oui, souvenez-vous, début 2023, quand ces images d'infos, enfin qu'on aurait pu penser être des images publiées par des grandes agences de médias comme Reuters ou l'AFP, sont apparues sur les écrans. Et en fait, c'était des images des grands de ce monde qui avaient été générées par l'intelligence artificielle. Donc, on se souvient du pape affublé d'une doudoune un peu étrange, de Donald Trump en prison, de Emmanuel Macron pris à partie par des manifestants. Et c'est vrai que ces photos, elles jouaient sur le doute. C'est vrai qu'il y avait le procès de Trump dans l'air. Mmh. Donc, ça aurait pu être crédible. C'est vrai qu'on est nombreux à s'être fait avoir par ces images. Et là, je me suis dit, même moi, si moi, une femme d'image, de médias, d'experte, je peux peut-être me faire avoir par ces images, ça veut dire qu'effectivement, le grand public le peut, dans un monde où on est submergé par des informations. C'est vrai que dans ce flux d'infos qui nous parviennent, ces images, finalement, elles apparaissaient aussi pour beaucoup comme étant des images réelles.
En fait, hein, ce que vous dites, hein, ce que démontre en partie votre livre, c'est que les intelligences artificielles ne menacent pas tant la vérité, mais notre capacité à faire la différence entre le vrai et le faux. Alors vous êtes une experte, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Est-ce que c'est la puissance de ces outils ou cette perte de repères collectifs qu'elles procurent ?
Alors, on est déjà. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période où finalement, on s'aperçoit que entre 1960 et nos jours, la puissance des processeurs, je vais plus parler finalement de leur puissance de calcul, a augmenté de 100 milliards. Et c'est vrai que, mis à part tous ces processeurs, tous les objets qu'on a à portée de main, il n'y a aucun objet qui a subi, une fulgurance en termes d'innovation aussi forte et aussi rapide. Donc c'est vrai que ça interroge aussi sur la capacité de notre cerveau à assimiler ces innovations. Donc c'est vrai que d'un côté, ces innovations que l'on vit et que l'on subit, qui sont aussi très positives, hein, et ça il faut pas le nier, elles peuvent aussi interroger sur notre capacité à les absorber. Et puis on vit aussi dans un monde qui a perdu tous ses repères. Vous voyez que les amis d'hier sont devenus des ennemis. On était quasiment sûr d'être une grande puissance pendant des années, et puis en fait on s'aperçoit qu'on est une puissance qui est finalement à reculer dans les classements et qui est surendettée. On était dans un monde où on pensait avoir à peu près maîtrisé toutes les maladies, et puis tout à coup il y a une épidémie mondiale qu'on est incapable d'endiguer, et on se retrouve à tous confinés. Donc on est dans ce monde-là où effectivement on a déjà perdu nos repères, et s'ajoute à ça les outils de communication numérique, smartphones et autres tablettes, les réseaux sociaux, où on se retrouve effectivement submergé par un flux d'informations contradictoires, enfermé dans des bulles, et donc se retrouver dans un monde comme celui-ci est compliqué, puisque déjà la réalité est complexe, mais en plus si on rajoute des outils qui favorisent la désinformation, on se retrouve effectivement très très embêté, et c'est le monde dans lequel on vit. Donc je pense que oui, on est déjà dans le monde.
D'ailleurs, cette question du vote, elle est extrêmement importante, hein. On peut vraiment se demander comment les citoyens vont faire leur choix aux urnes quand ils sont submergés par un tsunami de deepfakes. Est-ce que on peut considérer, alors vous avez pris l'exemple effectivement des États-Unis qui peut-être est l'extrême, hein, mais est-ce qu'on peut considérer que l'IA peut remettre en cause la sincérité du processus électoral?
On l'a déjà vécu.
On l'a vécu avec Trump.
Oui. On l'a vécu déjà avec Trump. On l'a vécu pour son premier mandat. Ouais. Souvenez-vous du scandale Cambridge Analytica. Mm-hmm. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce sont des données d'utilisateurs de Facebook qui ont été transmises à cette agence de communication et qui a permis effectivement au candidat Trump de l'emporter, puisqu'on a utilisé ces informations. Facebook avait recensé énormément d'informations sur ses utilisateurs pour les orienter dans un sens ou dans l'autre.
Mais alors comment on résiste à ça ? Comment une démocratie peut résister à cela aujourd'hui?
Alors, moi, je pense sincèrement que ça suppose une vigilance accrue, renforcer l'esprit critique des gens, s'assurer que dès le plus jeune âge, on apprend aux plus jeunes à sous-peser les informations qui parviennent, à les croiser, à faire un travail de détective, mais vraiment à tous les âges, parce qu'on s'est quand même rendu compte aussi que les populations les plus âgées étaient parfois celles qui pouvaient relayer le plus de désinformation, donc l'esprit critique. Et puis, moi je dis aussi beaucoup qu'il faut une régulation qui se renforce, aussi qu'on remette l'éthique au cœur de l'innovation. C'est vraiment la base. Enfin, il faut revenir à cette base, c'est-à-dire que l'innovation, elle doit être au service de l'humain. Elle doit pas être là pour faire en sorte, pour nous asservir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si finalement ces réseaux sociaux, ne nous asservissent pas et puis finalement nuisent à notre bien commun, nuisent à notre vivre ensemble parce que on ne parvient plus à
ouais, je crois qu'on arrive à faire ce constat-là de plus en plus aujourd'hui et tant mieux. Hein. C'est-à-dire que maintenant on a un peu de recul pour dénoncer effectivement ce que nous subissons avec les réseaux sociaux, mais ça pose l'esprit critique, il est terriblement altéré aussi par nos algorithmes de recommandation, c'est-à-dire tous ces algorithmes aujourd'hui qui rassurent notre cerveau avec des biais de confirmation. Donc on perd l'habitude de cette contradiction. C'est extrêmement difficile de contrôler ces plateformes. Est-ce qu'on a des pistes et des voies de solution?
La régulation, elle est en train de s'écrire, mais vous voyez très bien
qu'elle est en train de s'écrire.
Oui, mais c'est un exercice qui est difficile puisque le temps, la temporalité du droit est absolument pas la temporalité de l'innovation ou de la vie des affaires. Donc, vous avez d'un côté un monde qui va très vite, qui s'accélère. Enfin, c'est ce que je disais sur cette fulgurance en termes d'innovation. Et de l'autre, il y a un droit qui doit se remettre en question et qui ne va pas aussi vite et qui a un peu du mal à se faire entendre, à se faire respecter et c'est le monde dans lequel on vit, mais je pense qu'à un moment donné il va falloir que la régulation, que les régulateurs qu'il y ait plus de communication entre le monde économique et la régulation pour qu'il y ait plus d'ingénieurs qui participent aussi à la réflexion et à l'écriture du droit pour arriver à un droit qui protège et qui ne freine pas l'innovation, parce que c'est vrai que on peut avoir un double effet. On peut aussi avoir un effet d'un droit qui est pas adapté, qui va trop loin et qui empêche l'innovation, ou un droit qui veut ratisser très très large. On l'a vu sur l'IA Act. En fait, et c'est parce qu'effectivement il y a des tas de modèles d'IA. On parle d'IA, c'est un terme générique, mais entre celle qui est utilisée pour accompagner un diagnostic, celle qui vous accompagne dans le quand vous faites un trajet pour vous orienter, et celle qui vous aide à écrire ou à créer des photos, on est vraiment sur des modèles d'IA très différents. Et après, on a effectivement les algorithmes de recommandation. Donc, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui qu'on ait une régulation qui s'adapte, qui soit plus efficace. Voilà, pour en revenir à l'IA Act, par exemple, elle a totalement pas du tout pris en compte les milieux culturels. Ouais. Donc, elle a pris en compte effectivement tous les aspects de sécurité et de surveillance de masse, mais pas du tout le secteur culturel.
Pourquoi, d'après vous ?
Parce que, en fait, je pense que c'est pas considéré comme une industrie et c'était pas considéré par le législateur comme étant le plus urgent. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, eh ben on dit maintenant ils y reviennent, ils y travaillent parce les auteurs se sont mobilisés parce qu'ils se sont bien rendus compte que tous les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT ou autres s'entraînaient sur du contenu et que les ayants droit n'étaient même pas au courant de ça. Donc ça passe de grands journaux à des auteurs reconnus et reconnus, mais c'est des quantités énormes, assez phénoménales de contenu qui sont sur lesquels ces IA sont entraînées. Donc voilà, donc on voit bien que ce temps du droit et que cette régulation, elle est en train de s'écrire. C'est compliqué. Il faut aussi qu'elle s'écrive au niveau international, pas au niveau national.
Oui, parce qu'on a bien vu dernièrement des régulations imposées à certaines plateformes les ont conduits à prendre la décision de quitter la France.
Alors, oui.
C'est extrêmement facile, ça.
Alors,
pour ne pas subir des régulations.
Exactement. Donc,
ça résout pas le problème.
Effectivement, vous parlez de la régulation de toutes les plateformes de contenu pour adultes, de contenu pornographique, à qui on demande depuis des années de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. C'est quand même la moindre des choses. Et donc là, les voir commencer à râler, chouiner, menacer de s'en aller, je trouve ça absolument pas au niveau et à la limite obscène. Et honnêtement, on voit bien que ce sont des plateformes qui agissent à un niveau international et donc on doit avoir une législation qui soit au niveau international. Et c'est vrai que dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, où nos amis d'hier avec lesquels on commençait à écrire une régulation internationale, ne le sont plus. Ça devient très 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 compliqué puisqu'on voit bien que les grandes plateformes américaines, ne veulent plus vraiment jouer le jeu, que ces plateformes pornographiques qui sont parfois très 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 louches en termes de d'appartenance et d'entreprises qui sont aussi pour certaines mafieuses, on s'aperçoit que c'est très difficile de les attraper puisqu'on n'a pas d'outils de régulation internationaux et qu'on n'arrive pas à s'entendre sur les sujets.
Sur ce sujet. fait. Alors vous, personnellement, dans ce paysage, on va dire, un petit peu brouillé, comment vous continuez à faire confiance en tant qu'ancienne régulatrice, mais citoyenne et créatrice? Quels sont les repères que vous imposez pour ne pas sombrer dans un cynisme ou une résignation?
Oui, alors c'est vrai qu'ils ne vont pas sombrer dans le cynisme. Et en même temps, même si moi je suis de nature optimiste, il faut, je pense, faire preuve de réalisme et de se dire qu'il faut se mobiliser. C'est-à-dire que le politique, les industriels aussi doivent se mobiliser. Je pense qu'on doit aussi, je le disais, en termes d'éducation, faire un effort, même si on demande déjà beaucoup à l'éducation nationale et que ça en rajoute. Mais c'est vrai que c'est nécessaire. Donc les parents aussi doivent s'y mettre. Donc moi, je veux rester optimiste en me disant que on va finir. Alors c'est pour ça que je parle de crépuscule, parce que c'est vrai qu'on est dans cette période où on voit tous un peu flou. Voilà, on n'arrive plus à distinguer les chiens des loups. Mais à un moment donné, la technologie, il va y avoir aussi des éthiciens qui vont prendre le relais et qui vont créer des technologies qui vont nous permettre d'identifier le vrai du faux, de pouvoir nous permettre d'avancer. Et je pense qu'on va y arriver, mais tout en étant vigilant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, on peut s'en sortir, mais encore faut-il se retrousser les manches et le faire dès à présent.
Et en avoir la volonté.
En avoir la volonté politique et pas uniquement des grands discours et vraiment en s'y mettant. Et je pense que, enfin déjà, j'écoutais votre édito et je me dis que si on écoutait tout ce que vous venez de dire, bah, ce serait formidable, Muriel.
Merci Carole bien-aimée Besse pour cet éclairage sur les zones d'ombre du numérique. Il faut lire Crépuscule numérique qui est publié aux éditions de l'Observatoire, parce que ce livre nous oblige à défendre ce que nous pensions évident, la vérité, le débat, la démocratie. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission de La Force de l'Engagement. Bon dimanche.
Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus.
Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.
Allez, 8h28 sur Sud Radio, non, 8h26 sur Sud Radio, je suis trop pressé, à suivre notre débat. Est-ce que Bruno Retailleau a raison de fustiger mai 68? Mai 68 a-t-il légué des barbares à la France? On en débat avec nos invités juste après les infos de 8h30. Mais avant ça, Surprise. Chers amis, Sud Radio, toute la semaine, dans chaque émission, vous offre des cadeaux. Vous permet d'en offrir aussi des bracelets de la collection Lettres de la marque Le Vent à la française.com. C'est très élégant, c'est très joli. C'est doré, avec une belle finition. C'est complètement fabriqué en France, confectionné à la main. C'est garanti à vie, ça résiste à l'eau. Bref, n'en jetez plus. C'est un cadeau super sympa à faire à vos proches. Alors, vous nous appelez 0826 300 300, le troisième et le quatrième appel. Donc, soyez très pressés. Décrochera ce cadeau, soit pour lui-même, soit à offrir à quelqu'un. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
On en parle.
Et si on prenait la route des économies à l'occasion des prochaines vacances? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour.
Alors Camille, on entend beaucoup parler de mobilité électrique en ce moment. Est-ce vraiment le bon choix?
Absolument. Opter pour la mobilité électrique, c'est tout simplement réaliser des économies. Concrètement, il faut savoir que recharger une voiture électrique coûte en moyenne 4 fois moins cher qu'un plein d'essence.
Ah oui, quand même.
Oui, et d'ailleurs, vous pouvez facilement contrôler et gérer votre consommation avec l'application EDF et moi. L'intérêt est d'optimiser la recharge de votre voiture en fonction de vos besoins et de vos heures creuses. C'est quand même plus agréable de rester à la maison que d'aller à la station-service.
Ça c'est sûr, forcément, et ça donne envie.
En plus, jusqu'au 30 juin, et si vous souscrivez à un nouveau contrat d'électricité EDF en offre de marché, vous pouvez gagner une voiture électrique par tirage au sort. Il vous suffit d'aller sur edf.fr/wattmobile.
Merci Camille.
On en parle. Source R&D EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Sud Radio Rodez.
104.4.
Sud Radio.
Pas très confort ces transats, non?
Ah, je suis bien, moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant, là?
Bah, tu veux dire la mer?
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0€ après bonus écologique de 2000€ déduit. Sous réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Ah oh, là, j'en peux plus de ces bouchons là.
Ah ouais, c'est marrant ça, moi je trouve ça très bien moi ça.
Comment ça tu trouves ça très bien?
Ben pense un peu aux autres fistons qui se tentent d'admirer ma nouvelle Aygo Cross avec son toit ouvrant et ses jantes 18 pouces. Eh oui.
Venez découvrir la Toyota Aygo Cross, disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end.
Oh, j'avance, oh là là.
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
Allez, bon dimanche sur Sud Radio. Bon réveil, il est 8h30. Sud
Radio. Parlons vrai.
Tout de suite, le rappel des informations. Nicolas Gomez, bonjour.
Bonjour à tous. Troisième nuit d'escalade militaire au Proche-Orient. L'Iran a envoyé une salve de missiles sur Israël. Bilan provisoire des autorités israéliennes. 8 morts sur le centre d'Israël et la région ouest de Jérusalem. Dans le même temps, Tsahal a répliqué sur l'Iran et affirme avoir ciblé des sites iraniens. L'État hébreu qui accuse l'Iran de s'approcher d'un point de non-retour vers la bombe atomique. C'est la conséquence de sa condamnation. Nicolas Sarkozy est exclu de la Légion d'honneur. Arrêté paru au journal officiel, l'ancien président est déchu de cette distinction après le rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation en décembre et donc sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes. Direction le Groenland pour Emmanuel Macron. Le président s'apprête à poser le pied sur l'île Arctique aujourd'hui, juste avant de rejoindre le G7 au Canada. J'y vais pour dire « on est là, on est prêt à se réinvestir pour ne pas qu'il y ait de la prédation », avait affirmé le chef de l'État il y a quelques jours. Emmanuel Macron qui souhaite envoyer un message de fermeté à Donald Trump qui menace d'annexer le Groenland. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui perd en popularité, 21% d'avis favorables selon le dernier baromètre de la Tribune dimanche, c'est 5 points de moins qu'en mai, son premier ministre François Bayrou lui chute à 17% d'avis favorables. Il devient le chef de gouvernement en exercice le plus impopulaire de la 5ème République. Aux États-Unis, près de 2000 manifestations contre Donald Trump ont eu lieu hier dans tout le pays. Une façon pour les opposants au président de contrer la grande parade militaire à Washington, voulue par Donald Trump à l'occasion des 250 ans de l'armée américaine. La vigilance est élevée dans le centre-est. Plus aucun département n'est concerné par la vigilance orange-orage. La grêle a fait tout de même quelques dégâts cette nuit en Bourgogne. En Côte d'Or, des toitures ont été endommagées. En sport, dernière étape pour le Critérium du Dauphiné. Hier, c'est le Slovène Tadej Pogacar qui a remporté la 7ème étape. Aujourd'hui, 133 km du Val d'Arc au Val Ceni. Et puis en rugby, Toulon affrontera l'UBB en demi-finale du top 14. Les Toulonnais ont battu Castres hier en quart de finale, 52 à 23. Très bonne journée à tous.
Bonne journée à vous aussi, Nicolas.
La météo Sud Radio.
Bon, Rémi, attention aux orages. Hein.
Oui, on a encore des orages ce matin, notamment dans le sud-ouest, hein, principalement donc sur les Hautes-Pyrénées, mais également entre Agen et Bergerac. Nous en avons d'autres du côté de Rodez ou sur le sud de l'Aveyron également, entre Figeac et Aurillac, donc quelques orages ce matin. Puis vous en avez également dans le nord-est, hein, du côté de Besançon ou de Chaumont en Champagne. Donc les orages s'étendent principalement depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est. Dans l'après-midi, ils vont plutôt se concentrer entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Et là, attention, ils pourraient devenir encore plus forts. Et sur le nord-ouest, là, ça se calme avec le retour des éclaircies et d'un air un petit peu plus frais. Et sur les bords de la Méditerranée, certes, ce matin sur le Languedoc, quelques averses, mais dans l'après-midi, on aura un petit peu plus de soleil, ce qui permettra aux températures d'atteindre les 30 à 32 degrés vers la Méditerranée. On se contentera partout ailleurs de valeurs de 19 à 24 degrés.
Merci Rémi.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordier.
Allez, bienvenue, bon dimanche, bon réveil à vous sur Sud Radio, il est 8h33, tout de suite, place au débat. Enfin, tout de suite, dans un instant, avant ça, la revue de presse politique de Théo Ampillac.
Bonjour
Théo.
Bonjour à tous.
Le conclave sur les retraites sera-t-il fatal au gouvernement Bayrou? Le Premier ministre se confie ce matin sur l'avenir de son équipe dans une interview croisée aux Parisiens aujourd'hui en France et à la tribune du dimanche.
François Bayrou reste lucide, il sait que son gouvernement peut tomber à tout moment. Voici ce qu'il déclare dans la tribune du dimanche. Il y a des gens qui sont là pour durer, moi je suis là pour changer la situation. Je ne suis pas à la recherche du confort, je suis à la recherche de la conscience et au bout du compte de la confiance. L'opposition, elle, ne cache pas son hostilité envers le Premier ministre. L'envie de sortir Bayrou est là, entend-on sur les bancs socialistes, si le conclave ne répond pas à leurs attentes. Mais au sein même de la majorité, les critiques fusent. Écoutez ce que déclare un député Renaissance dans la tribune du dimanche sur le Premier ministre. Il a passé sa vie à faire des discours où il expliquait comment on pourrait faire sans rien faire. Ça vous donne un peu un aperçu de l'ambiance qui règne au sein de la majorité. Les concertations, elles, entre patronat et syndicats pour les retraites s'achèveront mardi. François Bayrou s'est dit confiant sur un accord possible.
Bon, on verra ça et on va suivre évidemment tout ça. En attendant, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et celle de François Bayrou sont en chute libre.
Eh oui, selon un sondage Ipsos Cessi pour la tribune du dimanche, la cote de popularité du chef de l'État chute à 21% en juin, un niveau proche de son niveau le plus bas historique atteint pendant la crise des Gilets jaunes. François Bayrou fait encore pire, il ne recueille que 17% d'opinions favorables, ce qui fait de lui le Premier ministre le plus impopulaire de la 5e République.
Ça y est, record battu, c'est important.
Exactement,
quand même.
17%, c'est record battu.
Pourtant, il y avait beaucoup de compétition sur la ligne de départ. Alors cette baisse, effectivement, en tout cas, cette baisse symbole d'un malaise profond au sein du bloc central, Théo.
Exactement, qui est particulièrement marqué chez les sympathisants de la majorité présidentielle, Renaissance, Modem et surtout Horizon.
On n'est jamais mieux lâché que par les siens. On termine avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'en prend violemment, ce sera notre débat, à mai 68 ce matin, dans le journal du dimanche.
Le journal affiche en gros titre, page 3, mai 68 a fabriqué des barbares. Une déclaration choc dans un contexte tendu, après le meurtre de Mélanie, la surveillante poignardée début de semaine à Nogent par un adolescent de 14 ans. Le ministre dénonce une société devenue, je cite, trop permissive. Il nous dit, après mai 68, on nous avait promis la plage sous les pavés, mais c'est la rage qui est remontée. Il n'y a plus d'interdit, plus de respect, plus d'autorité, plus de repères. Pour établir l'autorité, Bruno Retailleau veut frapper fort. Il propose de généraliser les courtes peines de prison pour les mineurs dès le premier délit grave. Mais pour cela, nous dit-il, il faut commencer par abroger la loi Belloubet de 2019 qui empêche ces peines courtes. C'est une urgence, conclut-il.
Bon, mais écoutez, on va en débattre tout de suite. Merci beaucoup Théo Ampillac. Bruno Retailleau a-t-il raison de fustiger mai 68? C'est pas le premier à le faire spécialement. À droite, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, en 2007, il nous reste quelques jours pour enterrer l'héritage de mai 68. Mai 68 a-t-il accouché d'une société laxiste, trop permissive, comme le dit le ministre de l'Intérieur, qui aurait engendré des barbares, cette société? On en débat avec William T. Bonjour.
Bonjour.
Président fondateur du think tank Le Millénaire, Nicolas Corato. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur du think tank Place de la République. Bon, William T, pour votre think tank qui est plutôt classé à droite, c'est un vieux classique du genre quand on est de droite de critiquer mai 68.
C'est pas uniquement un classique, c'est une vérité parce qu'en fait, il y a deux choses structurantes qui ont coulé la France. La première, c'est l'élection de François Mitterrand en 1981. Mais l'élection de François Mitterrand en 1980 n'aurait pas été permise sans une victoire culturelle de la gauche à travers mai 68. Et en fait, la double victoire de mai 68 et de la victoire de François Mitterrand a ruiné notre économie parce que François Mitterrand a dépucelé notre économie, a fait en sorte que la France soit déclassée. On le prend avec des exemples très simples, avec le PIB par habitant de la France, de l'Allemagne, des États-Unis en 1981 qui était exactement le même. Et aujourd'hui, les États-Unis ont quasiment un PIB deux fois supérieur au nôtre. Et l'Allemagne a également un PIB par habitant qui est supérieur au nôtre. Et ensuite, après ce déclin économique, est en pair également avec un déclin moral et sociétal. Et pourquoi est-ce que mai 68 a cassé, en fait, la rupture qu'on avait sur deux choses essentielles? Un, c'est qu'en fait, ils ont fait une rupture, notamment contre la figure du père, donc contre la grande figure d'autorité qui était le général de Gaulle. Mmh. Et c'est en abattant la figure d'autorité, c'est en abattant tous les repères moraux qu'on avait, l'ordre, la religion, peut être pour ou contre religion, c'est pas l'affaire. Mais en fait, ils ont cassé tous les repères qui ont structuré la société pour créer, en fait, une société du désordre où règne finalement l'impunité, la violence, la barbarie, donc la société rêvée de Nicolas.
Bon, Nicolas Corato.
Intéressant, je crois que vous avez bien résumé, William, le débat.
Nous avons une droite aujourd'hui excessivement réactionnaire, je dirais même réactionnaire contre elle-même. Et vous venez de la définir, c'est une droite qui est nostalgique du sabre et du goupillon. Monsieur Retailleau...
Pourquoi le sabre ?
Bah, le sabre, c'est l'ordre, l'autorité, le goupillon, vous venez de dire.
C'est des gros mots.
C'est la religion, j'ai entendu.
C'est des gros mots.
Vous venez de le dire, Nicolas. Ce qui structure une société, c'est l'ordre et la religion. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui nous distingue et nous sépare catégoriquement sur les chantiers politiques et sur la manière dont nous voyons la société. Moi, ce qui m'intéresse chez Bruno Retailleau, c'est deux choses. D'abord, vous dites mai 81, 68, vous auriez pu revenir au Front Populaire, mais allez pousser,
mais pousser
jusqu'au bout. Je pense que Monsieur Retailleau, derrière mai 68, derrière 81, derrière 45 et les jours heureux, le Conseil national de la Résistance, c'est intéressant, mais j'y reviendrai, a finalement un vrai problème. Le problème de Monsieur Retailleau, c'est la Révolution française. C'est une droite. Non, mais Monsieur Retailleau, reprenons Raymond Aron. Monsieur Retailleau est le représentant et l'héritier d'un courant idéologique et politique à droite, qui est une droite réactionnaire qui n'a jamais digéré l'héritage révolutionnaire. Et il y a, chez
on parle
Monsieur
de quel
Retailleau,
héritage là ici en l'espèce quand là, on le parle, relie à un fait
dire,
divers épouvantable.
Je vais vous dire, on parle par exemple de l'héritage qui reconnaît le droit naturel, c'est-à-dire l'égalité de droit entre tous les hommes. Quand vous traitez et quand vous qualifiez de barbare une partie de la société et que vous l'excluez de champ du fait civilisationnel, du fait de la société, vous niez le droit naturel.
Est-ce qu'on a le droit de dire, par exemple, on parle de fait là plus que de personne, qu'un adolescent qui poignarde à près de 10 reprises, dont une fois avec la lame qui s'enfonce de 18 cm dans le corps de la surveillante, que c'est un acte barbare et que par conséquent l'adolescent qui a commis cet acte est un barbare.
Je vais vous dire, moi ce qui me marque dans cet acte, c'est que justement cet acte il a eu lieu pendant une fouille, en présence d'autorités.
De gendarmes.
Qui respectaient les règles.
Donc c'est la faute des gens.
Non, attendez. Deux gendarmes. Oui. Deux surveillantes qui a été assassinée. Ce qui prouve bien.
C'est d'ailleurs un miracle, la présence fortuite des gendarmes.
Ce qui prouve bien qu'on était bien dans un schéma où s'exprimait l'autorité que réclame à corps et à cri le ministre de l'Intérieur. Et pourquoi est-ce que cet adolescent, malgré cette expression de l'autorité, est passé à l'acte? On devrait se poser cette question. On devrait se poser cette question de savoir pourquoi est-ce que cet adolescent est passé à l'acte. Et je vais finir là-dessus. Moi, quand j'entends Monsieur Retailleau nous expliquer que, quelle est la société qu'il veut pour nous? C'est une société de l'ordre, de l'autorité.
De la sécurité.
Quand on a que l'autorité à vendre à un pays. Quand on a que l'autorité.
Pourquoi pas que?
Avec derrière.
C'est mieux que rien, non?
Avec derrière l'idée que. C'est le peuple qui est responsable, vous comprenez? C'est nous qui sommes devenus des barbares. Parce que, pardonnez-moi, moi quand le ministre de l'Intérieur me dit « mai 68 a engendré des barbares », moi je suis né en 1975, j'ai l'impression comme des millions de Français d'être englobés dans cette... Donc c'est l'idée de dire, vous savez, dans les années 40, on disait la défaite, la débâcle, c'est la faute du Front Populaire. C'est une décadence morale, c'est une décadence de la population. C'est le peuple qui est responsable, qui pense mal.
Oui, enfin, quand les 68ards ont enterré l'héritage politique de la génération précédente, on n'a pas dit qu'ils insultaient le pays non plus, donc on a le droit aussi...
Bien sûr qu'on l'a dit.
Étiez d'accord ?
Mais attendez, aujourd'hui, Monsieur Retailleau est un Savonarole, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous dit il faut un ordre moral, et c'est par la morale qu'on va régénérer le pays. Extrêmement dangereux. Mais cette idéologie est extrêmement dangereuse.
Alors, il y a deux points. Son argumentaire tient absolument pas la route, malheureusement. Pourtant, des fois, tu t'en sors un peu mieux que ça. Sur la première chose, sur la question des barbares. Tu dis que ce Retailleau exclut les barbares de la société. Je pense que ce sont les barbares eux-mêmes qui se sont exclus de la société. Je vais pas te rappeler les principes de la justice de Beccaria. Qu'est-ce que dit les principes de la justice de Beccaria? On enferme les gens en prison parce qu'ils sont nuisibles à la société. Or, lorsque vous avez des personnes, Nicolas, qui poignardent d'autres personnes, qui se baladent dans la rue avec des armes blanches, avec des couteaux, avec la volonté de nuire, qui tuent pour un regard, qui tuent pour une cigarette refusée, qui tuent uniquement parce qu'on ne respecte pas les codes sociétaux que eux-mêmes veulent imposer, uniquement aussi pour des différentes questions comme le respect ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu penses que ces personnes-là peuvent vivre avec la grande majorité des citoyens, c'est-à-dire 99,99%. C'est le premier point. Donc moi, je pense que lorsque tu as des personnes comme ça, qui ne respectent pas nos codes, qui agissent de manière impunie et qui agissent avec des crimes et des délits, je pense que ces personnes doivent être enfermées dans la société. Ensuite, après, pour revenir sur le débat, qui est pourquoi est-ce qu'on arrive à une société comme ça? Je pense que la société est comme ça, parce que de toute façon, le discours politique aujourd'hui n'a qu'une seule valeur, c'est de pouvoir construire, enfin, pour les questions économiques qui sont d'interdépendance, etc. Donc il y a un autre sujet. Sur la question sociétale et sur la question morale, le pouvoir politique peut modifier les différentes générations dans un sens ou dans un autre. Et je pense que ce que dit Bruno Retailleau, c'est que ton courant politique et le courant politique de tes alliés, donc c'est-à-dire Mélenchon et compagnie, ont fait en sorte, à travers les discours de mai 68, lorsque tu dis qu'il est interdit d'interdire, ouais, lorsqu'on autorise notamment des manifestants à lancer des pavés contre les représentants de l'État, ouais, donc les forces de l'ordre, lorsque tu autorises...
Enfin, personne n'a autorisé,
gens...
pardon.
Non, non, mais autorisé, mais vous avez quand même des gens, Jean-Marie, qui en fait lançaient des pavés contre les représentants de l'État, ouais, donc ceux du général de Gaulle, en disant que attaquer les forces de l'ordre, c'est attaquer le général de Gaulle. Donc, quand tu as des personnes comme ça, qui concurrencent l'autorité de l'État dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, qui attaquent des pompiers, qui attaquent des policiers, qui attaquent des maires, qui attaquent tous les représentants de l'État, en fait, tu as des discours qui autorisent et qui légitiment la violence de barbares contre l'État et que non, qui défient l'autorité, je pense, c'est ce qu'il veut dire. Et je pense que c'est cette culture politique qu'il faut combattre parce que sans autorité, tu n'as pas d'ordre. Sans ordre, tu n'as pas de vivre ensemble parce que la base du contrat social, c'est que chacun délègue sa liberté individuelle pour faire corps et pour respecter les règles qui sont communes.
Est-ce que la gauche a un problème avec l'autorité et la sécurité ?
Non, je pense que la gauche, elle a toujours considéré deux choses.
Ouais.
Que l'ordre républicain, c'était l'ordre et la justice sociale. Et qu'on ment aux Français quand on leur dit que toute la solution, c'est le rétablissement de l'autorité. Parce que vous pouvez rétablir l'autorité. Et ça fait, pardonnez-moi, ça fait depuis le ministre Manuel Valls, à gauche, et ensuite tous les ministres de l'Intérieur, qu'on a eu un discours sur l'autorité. Est-ce que la délinquance a reculé dans ce pays ? Est-ce que la violence a reculé dans ce pays ? Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous focalisez l'attention publique et le débat public sur la seule question de l'autorité,
ça veut dire
que rien d'autre.
Ça veut dire que la réponse pénale, par exemple, qui consisterait, si on suivait ce que veut Bruno Retailleau, à généraliser les peines de prison courtes dès le premier délit grave, c'est une mauvaise réponse pour vous ?
Je vais vous dire, la France est le pays de l'OCDE, le quatrième pays de l'OCDE, qui emprisonne le plus les mineurs. Est-ce que la France est le quatrième pays de l'OCDE le plus sûr et le plus sécurisé ?
Donc il y a un problème de sécurité quand même.
Mais bien sûr qu'il y a un problème de sécurité, mais c'est la réponse qui est pas la bonne.
Donc on répond comment alors ?
Cette réponse unique et équivoque, qui est une réponse facile, qui est celle de l'ordre et de l'autorité. Et
je prends un exemple très concret parce que ce sera plus simple.
Vous voulez réduire la violence chez les jeunes ?
J'ai rien demandé, permis.
Réformer l'aide sociale à l'enfance. Arrêter de générer des délinquants qui viennent de l'aide sociale à l'enfance.
Oui, mais
vous voulez réduire la violence chez les jeunes ? Supprimer Parcoursup.
Non.
Vous voulez réduire la violence sur les jeunes ? Mettez de l'argent dans l'éducation. Bien sûr.
C'est l'aide sociale à l'enfance et Parcoursup qui ont poussé les débordements, par exemple, de jeunes. Une personne à la fois. C'est moi qui fais régner l'ordre.
L'aide sociale à l'enfance violente les enfants dans ce pays. L'aide sociale à l'enfance génère de la souffrance.
Je prends par exemple ce qui s'est passé après la victoire
de l'exclusion et de la délinquance.
Je prends par exemple ce qui s'est passé après la victoire du Paris Saint-Germain. Vous avez eu des jeunes, par exemple, qui ont allumé les forces de l'ordre.
Ne souriez pas, William. C'est un sujet
extrêmement
grave.
Enfin, rien à voir avec l'aide sociale à l'enfance. Ce qui s'est passé après la victoire du PSG, rien à voir avec l'aide sociale à l'enfance.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est
vrai sujet, l'aide sociale à l'enfance.
Vous pourrez doubler, tripler les peines. Vous pourrez doubler, tripler le nombre de policiers et de gendarmes dans ce pays. Vous pourrez doubler et tripler le nombre de places de prison. Si vous ne mettez pas en place une vraie politique de justice sociale, vous n'arriverez jamais à réduire la violence. Pardonnez-moi de vous le dire, ça ne fonctionnera pas. Ça n'a jamais fonctionné.
Bon, un mot pour conclure ce débat, parce qu'on est rattrapé aussi par l'actualité. Vous dénoncez le laxisme, William T. Est-ce que ça veut dire aussi que vous félicitez du fait que Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, soit aujourd'hui officiellement privé de sa Légion d'honneur à cause de sa condamnation ?
Bah écoutez, moi je pense qu'il y a deux sujets. Est-ce que lorsque vous avez commis une faute, il faut payer ? Oui, donc c'est normal qu'il paie. Mais moi je pense que sur l'affaire où il a été condamné, donc les deux affaires en question, je pense malgré tout que c'est pas exclu qu'il y ait une erreur judiciaire et qu'on le saura plus tard.
Nicolas Corato,
je crois que c'est une bonne conclusion à notre débat. Dura les, sed lex. La loi est dure, mais elle est nécessaire. Elle est la même pour tout le monde, mon cher William.
Bah oui,
elle
mais
est
moi
la
je...
même pour ceux que votre ministre de l'Intérieur qualifie de barbares.
Je viens de répondre, t'es gentil,
pour
mais
ceux qui violent
pas besoin,
la loi,
pas besoin de parler pour moi.
Et je finis là-dessus, parce qu'on peut agiter des valeurs morales comme Monsieur Retailleau et donner des leçons à tout le monde, mais l'exemple doit venir d'en haut. Et comme le disait très bien Erasme, le poisson pourrit par la tête.
Non, mais je viens de te dire,
il faut arrêter d'incriminer la population sur ce qui s'appellerait la décadence ou le déclin de notre pays. Et peut-être que l'élite politique de ce pays se regarde en face et tire les conséquences de ses actes.
Et donc arrêter de donner des leçons de morale.
Bah oui, oui.
Mais c'est exactement ce que fait Monsieur Retailleau.
Ce sera un vœu pieux pour tout le monde.
Non, non, mais moi je viens d'exprimer très clairement. Si il a commis une faute, c'est normal qu'il la paie. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il a vraiment commis une faute? C'est ce que je te dis.
Mais ça, on y reviendra. Ça a été tranché. Mais ça a été tranché par les juges. Vous remettez en cause le jugement des juges?
Moi, je pense que tu verras qu'il y aura des affaires qui vont être révélées.
On y reviendra plus tard.
Très bien.
Mais c'était important.
On vit dans le complotisme. Mais si, c'est du complotisme.
On a le droit aussi d'appeler à la révision d'un procès un jour ou l'autre, quand même.
La révision d'un procès.
Pourquoi pas? C'est ce que demande Nicolas. C'est ce que demande un William Tay.
C'est déjà arrivé. À plusieurs reprises, que les juges se soient trompés.
Allez, ce sera un autre débat sur Nicolas Sarkozy. Merci à tous les deux. William Tay du think tank Le Millénaire, classé à droite, hein, vous l'aurez entendu. Merci à vous, Nicolas Corato du think tank Place de la République, classé à gauche, vous l'aurez constaté. Il est 8h48 à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et bien, les demi-finalistes du top 14, on les connaît enfin.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Carrefour. Quand vous me dites, l'Aleph est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère. Blonde, rubis, brune, ambrée, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Lef acheté. Et c'est valable sur tout Lef. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Sud Radio ailleurs en DAB+.
Sud Radio.
Pas très confort ces transats, non?
Ah, je suis bien moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant là?
Bah, je veux dire la mer?
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0€ après bonus écologique de 2000€ déduit. Sous réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Pensez à covoiturer.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tout a pris feu et tout s'est écroulé.
Quand Annick a perdu sa maison, Elodie, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Il fallait beaucoup la soutenir.
Moi, ce qu'il fallait, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui soit sincère.
Moi, je connais tous mes sociétaires et je connais tous mes dossiers sinistres. Donc l'accompagnement, on l'aura plus qu'un assureur lambda. Ça, c'est certain.
Ça, c'est la vérité. Ça serait pas vrai, je le dirais pas. Hein. Non, négatif.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Les passagers destination hybride sont priés de se rendre dans leur concession Suzuki la plus proche pour profiter des 5 modèles et 3 technologies hybrides Suzuki à partir de 159€ par mois. Destination hybride, embarquement immédiat. Profitez des portes ouvertes ce week-end.
Prix pour Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4000€. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2025. Si accord Kofika Bay. Détails sur suzuki.fr.
Pensez à covoiturer.
Maxoutils.com, un max d'outils à prix mini, présente.
Sud Radio, le journal des sports.
À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Du rugby sur Sud Radio, évidemment la radio du rugby. 8 ans après, Toulon retrouve les demi-finales du top 14 grâce à une victoire écrasante sur le Castres Olympique.
Et oui Jean-Marie, il n'en fallait pas moins pour galvaniser les Varois dans un Mayol déchaîné. Le RCT s'impose 52-23 au terme d'un match de phase finale, comme on les aime. Du combat, des inspirations offensives, un peu d'indiscipline, sinon ça ne serait pas du rugby. Et même un festival d'essais des rouges et noirs, 5 au total, dont celui de Mahanonou qui fêtait hier en quelque sorte son jubilé à Mayol puisqu'il raccroche à la fin de la saison. Rendez-vous compte, le double champion du monde inscrit à 43 ans, son premier essai depuis son retour à Toulon le
dernier daté de 2017. Mais le plus bel essai de ce barrage, c'est bien Baptiste Serin, le numéro 9 et fer de lance de cette équipe, qui l'inscrit. Mathias Merlot au commentaire.
Oh, le mal porté des Barrois qui emporte 15 sur 30 mètres et Mayol se lève. Et Baptiste Serin qui sort dans le fermé pour Twikouvou, pour Baptiste Serin, et c'est Toulonnais. Essai de Baptiste Serin sur ce côté fermé après un mal porté d'école et les avant qui arrogue Mayol. Dans un Mayol en folie, quel mal porté des Toulonnais sur 25 mètres et les avant qui viennent saluer une partie des supporters et le flair de Baptiste Serin d'aller jouer ce côté fermé avec Twikouvou. Toulon qui réalise le premier break dans cette partie.
Et Toulon continue de monter en puissance tout au long du match jusqu'à faire plier Castres. Et cette victoire, l'entraîneur du RCT l'a dédiée à son public qui est, selon lui, l'un des facteurs motivation de son équipe.
Le public le mérite. Ce public a beaucoup souffert depuis quelques années. Et déjà l'année dernière, on a fait un barrage, on a fait une quart de finale de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on fait une demi. Voilà, il faut qu'on soit embarqué, il faut qu'on embarque tout le monde, le club, les supporters. Voilà, et puis il faut y croire.
L'aventure continue donc pour des Varois qui défieront le champion d'Europe en titre, l'UBB, samedi prochain à Lyon.
Et évidemment, on y sera sur Sud Radio, sur place d'ailleurs, à Lyon, c'est important. Allez, une autre équipe a fait la fête hier soir, c'est l'USAP, les Perpignanais, qui se sauvent dans l'élite in extremis face à Grenoble lors du barrage d'accession.
Et oui, Jean-Marie, c'est terrible pour Grenoble, troisième défaite consécutive en access match après le revers 13-11 contre Perpignan. Le FCG jouait pourtant à la maison, mais ce sont bien les Catalans qui s'offre le droit de rester dans l'élite une saison de plus. On va revivre la pénalité de Tommaso Allan pour l'USAP, celle qui crucifie Grenoble.
Le buteur italien qui va s'élancer sous une bronca terrible, le ballon qui s'élève dans le stade des Alpes et qui va passer entre les perches, l'USAP qui repasse devant et l'USAP qui pour l'instant est en top 14, 77e minute de jeu. Le silence se fait dans le stade des Alpes, le public dégoûté a fait silence.
Un silence glaçant d'ailleurs.
Ouais, à noter également des affrontements entre supporters des deux équipes à l'issue de l'envahissement du terrain qui a suivi le coup de sifflet final.
Oui, ça c'est aussi pour tous les donneurs de leçons qui adorent dire que ce genre de problème n'arrive que dans le football et jamais dans le rugby. Comme quoi vous voyez, parfois c'est le contraire. Allez, on passe au football justement. La Coupe du Monde des clubs qui s'est ouverte dans la nuit.
Et si sportivement on attend principalement les équipes européennes, il y a aussi un facteur économique qui plane au-dessus de la compétition puisqu'elle a été créée pour reprendre le monopole du marché financier à l'UEFA, et avec nous Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, pour décrypter les dessous de cette nouvelle compétition. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors Vincent, cette nouvelle compétition, elle a commencé dans la nuit. Pourquoi est-ce que la FIFA veut reprendre le monopole du marché financier à l'UEFA ?
En fait, il y a deux objectifs pour la FIFA, c'est de gagner le marché américain. Pour gagner le marché américain, c'est un marché certes de 4% de la population mondiale, mais c'est 40% du marché du sponsoring mondial. Donc c'est un sujet stratégique et allumer les moyens. Coupe du monde des clubs, Coupe du monde, Coupe du monde féminine et puis Jeux Olympiques, les quatre prochaines années sont déterminantes par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, l'UEFA est plus puissante économiquement que la FIFA, 3 années sur 4. Il y a que l'année de la Coupe du Monde que la FIFA fait mieux que l'UEFA. Donc là, c'était important pour elle d'aller chercher l'UEFA sur son terrain, c'est-à-dire sur la compétition des clubs, avec cette Coupe du Monde des clubs.
Et est-ce que c'est aussi pour cette raison qu'il y a un énorme prize money pour les équipes participantes, enfin et surtout le champion du monde ?
Exactement, c'est-à-dire que pour que cette compétition soit importante pour la FIFA, il faut qu'il y ait les meilleurs clubs. Les meilleurs clubs sont européens et ils ont besoin d'argent. Alors, la FIFA ne recule devant aucun sacrifice. Là où elle met 440 millions pour la Coupe du Monde classique, j'aurais tendance à dire, là elle met 1 milliard de prize money. Et donc ça veut bien dire qu'elle va chercher les clubs sur leurs besoins économiques. Le gagnant remportera 125 millions de dollars.
Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
Mais on précise, le prize money, c'est l'ensemble des sommes mises à la disposition des vainqueurs et des participants lors d'une compétition. On passe au cyclisme, Jules Boscherini, une page du sport français qui se tourne.
Et oui, ce soir, à l'issue de la 8e et dernière étape du Dauphiné, Romain Bardet mettra un terme à 14 ans de carrière au plus haut niveau. L'Auvergnat a-t-il choisi le bon moment pour tirer sa révérence ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Théo Ampillac.
Et oui, il est puristes vous diront qu'il aurait dû continuer. Lui vous dira que les jambes ne sont plus celles de ses 20 ans. On est certain d'une chose, son panache et son honnêteté sur et en dehors du vélo vont forcément nous manquer. À 34 ans, l'Auvergnat laisse derrière lui un palmarès à en faire rougir plus d'un. Deux podiums sur le Tour, vainqueur d'étape en montagne, porteur du maillot jaune, vice-champion du monde 2018, mais jamais tout à fait prophète en son pays. Alors, est-ce que cette retraite sera source de regrets? Lui affirme que non, il aura tout donné jusqu'au bout. À l'image encore d'hier, à l'avant de la course, seul pendant près de 50 km avant de se faire reprendre dans la dernière ascension par les favoris. Finir au top, c'était son objectif. Nul doute qu'il essaiera encore d'être dans l'échappée aujourd'hui pour s'offrir une dernière danse, un dernier frisson. Après ce Dauphiné, Romain Bardet n'abandonne pas le vélo pour autant. Il sera consultant sur la moto d'Eurosport pendant la grande boucle. On pourra le retrouver, son expertise précieuse, à partir de la deuxième semaine du Tour.
Vous avez vu, il a les yeux humides, Théo Orpillac, quand il en parle.
Un Auvergnat qui prend sa retraite, un cycliste qui plus est, ça fait toujours quelque chose.
Un Auvergnat à vélo qui part, un autre qui revient, tout simplement. Allez, vous allez le remplacer, Théo Orpillac. Merci beaucoup. Merci à vous, Gilles Boscarini, également à suivre sur Sud Radio. La poursuite des hostilités entre Israël et l'Iran. 8 morts en Israël cette nuit, 8 morts au moins, après de nouvelles salves de missiles iraniens qui sont tombés sur Israël. Quels sont les buts de guerre du cabinet israélien? Qu'est-ce qu'Israël cherche à obtenir en Iran? On en parle avec notre invité juste après le journal de 9h.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Nîmes.
104.7.
Sud Radio. Tout savoir sur.
Total Energy mise sur la production et la distribution de SAF, ou carburant d'aviation durable, pour aider à décarboner le transport aérien. On vous en dit plus dans un instant.
Vous aimez Sud Radio? Bonne nouvelle, elle vous accompagne partout. Demandez simplement « Ok Google, lance Sud Radio » ou « Alexa, joue Sud Radio » sur vos enceintes connectées. Et pour ne rien rater, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sud Radio,
parlons vrai,
partout où vous êtes.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars.